Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder des récents événements qui se sont passés dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, également entre l'Iran et certains pays européens. Si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, vous vous en êtes rendu compte que ces derniers jours, les États-Unis et certains pays européens, très particulièrement la Grande-Bretagne et aussi le régime sioniste, ont orchestré une campagne d'intoxication sans précédent contre l'Iran, en avançant des accusations sans fondement contre ce pays en ce qui concerne cette attaque qui avait été menée tout récemment contre un navire dans la mer d'Oman. C'est dans ce cadre que les Américains ont tout fait pour obtenir une condamnation de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, des mêmes sons de cloche à Londres, où les autorités britanniques ont avancé des accusations sans fondement contre l'Iran, et le régime israélien aussi, comme toujours, a essayé de faire chanter, si vous voulez, les États-Unis et les pays des Européens. Et dans ce contexte, il y a eu cet entretien téléphonique entre le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue français Emmanuel Macron. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté des autorités militaires iraniennes qui ont mis en garde contre toute agression contre l'Iran qui recevra une réponse cuisante de la part de l'Iran. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Mikhail Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité.
Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, M. Egorov. J'ai également en ligne avec moi pour cette émission un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier, depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Neurostin, bonjour à tous vos auditeurs, et à votre invité, M. Mikhail Egorov, à Moscou.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, cette campagne d'intoxication orchestrée contre l'Iran, ces tentatives du côté américain, britannique et israélien pour en fait obtenir une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. Comment vous l'expliquez, Monsieur Dortiguier ?
Eh bien, il s'agit là d'abord d'une manœuvre de fond, une manœuvre, disons, d'intimidation de l'Iran et par une sorte de bluff tout à fait comparable à ce qui s'était produit il y a très longtemps, si je remonte à la fin du 19e siècle, quand les Américains ont prétendu qu'un de leurs navires avait été attaqué à un raid de la Havane, vous savez, ce qui avait donné comme prétexte l'invasion de Cuba. Ce sont des procédés, disons, de chantage, en fait, de chantage. Ce sont des pièges, disons, pour l'opinion publique. Ils ont pris comme prétexte, bien sûr, vous le savez, l'incendie à bord de ce bateau tenu par un milliardaire, disons, il va et bien dans le bâtiment, je crois. Et donc, ceci a fait chauffer une atmosphère, disons. Je reconnais que le ministre des Affaires étrangères britannique, Raab, a été vraiment très violent contre l'Iran. Et donc, il s'agit à notre avis, mais ce n'est pas un avis personnel, je crois que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens, disons indépendants, que nous avons affaire donc à un piège pour pouvoir intimider l'Iran. C'est surtout cela, voyez-vous, c'est-à-dire faire en sorte que dans les négociations qui vont venir, l'Iran ne défende pas ses propres intérêts, car au lieu de puisse parler, au lieu que votre pays puisse parler, il est déjà intimidé, disons, par un concert de voix qui menace de le traîner devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Mmh. Tout ceci, disons, est un mauvais jeu, mais malheureusement, un jeu qui, dans l'histoire, disons, est, si je puis dire, régulier, c'est-à-dire qu'il s'agit là véritablement d'un procédé de stupéfaction, vous voyez. Naturellement, nous savons que l'Iran résiste à cela. Mais notre opinion publique est évidemment sidérée aussi, et je crois que ceci a influencé, a influé peut-être l'énervement, enfin, je n'ose pas dire l'énervement, mais disons un certain ton dans la conversation avec le président de la République iranienne, de notre président de la République.
Monsieur Dortiguet, on va y revenir en fait, revenir sur cet entretien téléphonique entre le président Raïssi et son homologue français Emmanuel Macron. On va y revenir en fait plus tard dans le cadre de cette même émission également. Monsieur Egorov, vous venez d'entendre les explications de monsieur Dortiguet. Comment expliquez-vous en fait cette multiplication des pressions contre l'Iran dans l'état actuel des choses, ce recours, si vous voulez, au langage de menace contre de ce pays? Comment peut-on en fait interpréter une telle approche adoptée ces jours-ci par les Américains, les Britanniques et très particulièrement les Israéliens?
Oui, je pense que ce que M. Dortiguet a dit est très juste. Je rejoins entièrement ce qu'il a dit et je le salue également par la même occasion. Je pense qu'effectivement, il s'agit d'une tentative évidente d'intimidation vis-à-vis de l'Iran, une tentative de chantage. Ceci étant dit, j'ajouterais certainement que je pense que c'est aussi une tentative de mettre une pression supplémentaire sur l'Iran, la République islamique d'Iran, dans le cadre des négociations qui sont menées par rapport à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sachant que l'Iran jusqu'à maintenant a fait preuve d'une inflexibilité impressionnante. Et d'autant plus que ce n'est pas une inflexibilité illogique, au contraire, c'est une défense de ses intérêts dans le cadre d'un accord qui a été violé par une seule partie, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et donc l'Iran a émis des conditions que les Américains ont beaucoup de mal à accepter jusqu'à maintenant. Et donc cette nouvelle attaque qui vise l'Iran, effectivement, je pense qu'on peut le voir aussi dans le sens de mettre une pression supplémentaire de l'Iran dans le cadre de ce dossier. Il y a aussi un autre point qui je pense n'est pas étranger à cette affaire, c'est le fait qu'aujourd'hui on assiste à une montée non seulement en puissance de l'Iran sur la scène régionale et internationale en tant que grande puissance géopolitique, en tant que grande puissance civilisationnelle, qui a une influence qui n'est plus à démontrer aussi bien dans le cadre régional à la région à laquelle l'Iran appartient, mais aussi de plus en plus dans le cadre réellement international, et aussi parce que l'Iran, les positions de l'Iran, son prestige, sont de plus en plus et devient de plus en plus évident au sein de l'opinion publique internationale. Je pense qu'aujourd'hui, l'Iran, avec d'autres puissances majeures du monde, du monde, qui sont des puissances non occidentales et des partisans résolus du monde multipolaire, on voit bien que le positionnement de l'Iran aujourd'hui trouve un écho très favorable, de plus en plus favorable, au sein d'une large frange de l'opinion publique internationale, y compris même dans les pays occidentaux. Cela inquiète très fortement l'establishment de l'Occident et bien sûr ses autres alliés, notamment la qualité du régime sioniste. Et je pense que tous ces éléments font qu'ils sont effectivement en train de chercher ils ne ratent pas la moindre occasion pour pouvoir faire du chantage à l'Iran, essayer de l'intimider et essayer de le présenter comme un déstabilisateur, même si cette propagande et ces attaques ne marchent pas très bien, aussi bien dans le cadre de l'opinion publique internationale qui ne se laisse plus manipuler. On voit bien qu'il y a un éveil de conscience sans précédent aujourd'hui à l'ère multipolaire au sein de l'opinion publique de pratiquement toutes les régions du monde, et aussi grâce au fait que même au Conseil de sécurité de l'ONU que vous avez mentionné tout à l'heure dans le reportage, dans la présentation, il y a aujourd'hui un bloc qui s'oppose à ces velléités et qui remet les élites occidentales, l'establishment occidental à la place qui est la sienne, à savoir d'une extrême minorité planétaire.
Monsieur Dortiguet, Monsieur Egorov vient de faire allusion à cette, si vous voulez, approche ferme de l'Iran au cours des négociations de Vienne. En fait, il a qualifié cette approche de l'Iran d'inflexible et tout à fait logique, parce que l'Iran insiste sur le point que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord de nucléaire de 2015. Alors, ils devront revenir, si vous voulez, à leurs engagements. Et s'agissant des Européens également, l'Iran, si vous voulez, critique le non-respect de la partie européenne de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et s'agissant de cet entretien téléphonique entre le président Raïssi et son homologue français Emmanuel Macron, le président Raïssi a insisté sur ce même point en disant que voilà, de toute négociation doit garantir les intérêts, les droits d'ailleurs légitime, du peuple iranien, M. d'Ortiguier.
Oui, en effet, c'est pour cela que, pour reprendre ce qu'a dit M. Egorov, il ne s'agit pas d'une inflexibilité idéologique de la part de l'Iran, mais pour, peut-on dire, une inflexibilité juridique. C'est-à-dire, il suffit simplement de rappeler à tout homme de bon sens qu'un accord qui a été conclu n'a été conclu que sur des règles, des faits, disons, qui ont été établis, qui ont été convenus de part et d'autre. Il s'agit naturellement de conserver cet accord qui a donné cet accord de Vienne, les termes de l'accord de Vienne. L'Iran ne fait qu'appliquer les conséquences de cet accord de Vienne. Il demande à ses interlocuteurs de faire de même. Et c'est une affaire très simple. Mais le tapage, ou disons la déstabilisation qui est faite par cet effort de propagande, disons, de ce coup de force, d'ailleurs ne peut durer qu'un temps. C'est-à-dire qu'il n'a que l'effet d'un coup de tonnerre. C'est-à-dire que le coup de tonnerre, une fois passé, évidemment, bon, le ciel continue. Je crois que c'est la même chose. Nous nous trouvons devant des responsabilités. Et dans la conversation entre M. Macron et M. Raisi, évidemment, il était question de cela. Alors, la presse chez nous, je dis ça très rapidement, la presse chez nous n'a voulu retenir que le fait que M. Macron avait mis en garde l'Iran contre toute entreprise de fabrication d'armes atomiques, etc. Mais tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas du tout de fabriquer une arme atomique pour l'Iran, que ceci d'ailleurs, il l'a refusé, l'Iran l'a refusé pour des raisons idéologiques, pour des raisons philosophiques, disons, ou religieuses, et que, disons, l'affaire est autre. L'affaire, c'est laisser la liberté à l'Iran d'agir comme il l'entend, de se développer sans qu'il y ait des suspicions. On ne peut pas, évidemment, construire des relations internationales sur des arrière-pensées. En revanche, on doit et on peut construire, il est nécessaire de le faire, d'établir des relations internationales économiques, financières, etc., qui sont à l'avantage des pays européens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir d'une crise, ou tout au moins assurer une bonne santé à l'économie internationale, que si les partenaires agissent en respectant, bien sûr, les règles juridiques. C'est ce que demande l'Iran. Tout autre discours est un discours d'arrière-pensée. C'est un discours, disons, qui n'a absolument aucun caractère sérieux, aucun caractère politique, et bien sûr qui est entièrement immoral.
Monsieur Egorov, vous venez de le dire tout à l'heure dans une partie de votre commentaire, que l'objectif est de ces récents des agissements anti-iraniens et d'intimider l'Iran, mais ça ne marche pas. Monsieur Egorov, si ça ne marche pas, c'est pas parce que sur le plan politique, l'Iran est en position de force. Vous l'avez dit, en fait, cette politique adoptée par l'Iran au cours des négociations de Vienne bénéficie largement du soutien de l'opinion publique internationale. Et sur le plan politique également, l'Iran, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, bénéficie du soutien de deux grands pays, d'ailleurs membres du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie. Et sur le plan militaire également, l'Iran est plus fort aujourd'hui que de jamais, et les autorités militaires iraniennes ont promis en fait une riposte décuisante à tout aventurisme militaire de la part de quelques pays que ce soit, M. Egorov.
Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, l'Iran se trouve indéniablement en position de force, de par déjà sa conviction idéologique, de par du fait, dont j'en suis convaincu, de la justesse de son approche dans les affaires régionales comme internationales, de son positionnement en faveur du monde multipolaire qui est devenu une réalité. Bien sûr, il y a aussi, c'est un point très important, cette alliance au niveau du triumvirat Chine-Russie-Iran, qui se traduit aussi bien dans la sphère politico-diplomatique que militaro-sécuritaire, à travers des exercices conjoints, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. Il y a bien sûr aussi cet aspect que j'ai mentionné tout à l'heure de l'opinion publique internationale qui, pour beaucoup, sympathise vis-à-vis de l'Iran, aussi bien dans le dossier concernant le nucléaire iranien, mais aussi sur d'autres questions de l'actualité qui concernent le Proche, le Moyen-Orient et plus généralement sa vision et son approche à l'international. Et vous avez bien fait de mentionner l'aspect militaire, parce qu'effectivement, vous savez que le magazine américain spécialisé sur les questions de la puissance des principales armées du monde, le magazine Global Firepower, a fait le classement pour l'année, il a mis à jour le classement pour l'année 2021, et il faut savoir que l'Iran est classé tout simplement par ce magazine américain comme étant la 14e principale puissance militaire du monde devant l'entité sioniste, qui, si je ne me trompe pas, est classée autour des 20e places. En tout cas, elle est derrière l'Iran, alors que l'Israël, jusqu'à aujourd'hui, essayait de se positionner comme la principale force militaire régionale. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Donc, toutes ces raisons-là font qu'effectivement, ça crée un degré d'hystérie supplémentaire au sein de l'establishment washingtonien, atlantiste, plus généralement occidental, et de ses affiliés, comme évidemment l'entité sioniste. Et c'est pour ça que l'Iran continue de subir ces attaques. Mais je pense que l'Iran est fermement préparé à tout cela. Et on voit bien que la capacité de résistance à tous les niveaux de la République islamique est plus forte que jamais.
Monsieur Dortiguet, est-ce que vous m'entendez, monsieur Dortiguet ? Monsieur Dortiguet, est-ce que vous m'entendez ? Je crois que notre liaison avec monsieur Dortiguet a été perdue. On va continuer avec vous, monsieur Egorov. Notre émission. Monsieur Egorov, pensez-vous que les Européens vont faire le jeu du régime israélien en ce qui concerne en fait ces relations entre l'Iran et l'Union européenne?
Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit des régimes des pays occidentaux et notamment européens, on ne peut pas parler d'une souveraineté véritable. Il n'y a pas de souveraineté au niveau de ces pays. Et ces pays-là vont continuer à faire le jeu, enfin plutôt les prérogatives qui leur sont envoyées depuis Washington. Et quand il s'agit de Washington et de Tel Aviv, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire des commentaires supplémentaires pour parler du niveau d'interaction qui existe entre ces deux entités. Donc il est évident que compte tenu du fait que Washington continuera à fond à promouvoir les intérêts de son allié israélien, et les régimes occidentaux européens, en bon suiveur de Washington, continueront d'appliquer les prérogatives que leur ordonne l'establishment washingtonien. C'est une réalité triste pour les Européens, pour les pays européens, mais malheureusement, je pense qu'effectivement c'est le cas. Je pense que malheureusement, c'est une réalité avec laquelle il faut compter.
Vous voulez dire, M. Egorov, c'est en fait de l'absence d'indépendance et d'action par rapport à Washington, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on l'a noté, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans les milieux politiques et médiatiques. Également, désormais, l'indépendance d'action de l'Europe par rapport, si vous voulez, à Tel Aviv, M. Egorov.
Oui, tout à fait, puisque tout est lié, comme on le voit, sachant que Washington, même quand il se retrouve dans l'isolation la plus totale, au niveau de l'ONU, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, ne serait-ce que sur cet exemple-là, malgré tout, Washington continue obstinément à soutenir son allié israélien, et les Européens qui appliquent à la règle et qui font tout simplement un travail compétent au niveau international, évidemment, directement ou indirectement, appliquent également les volontés, les velléités de Tel Aviv. Donc, c'est une.
Notre contact avec Toulouse, avec M. Pierre Dortiguet, a été rétabli fort heureusement. D'ailleurs, M. Dortiguet, on était en train de parler avec M. Egorov. On disait que voilà, l'Iran a suffisamment de moyens sur le plan politique et militaire pour se défendre. Et M. Egorov est d'avis que cet aspect militaire également est très important. Autrement dit, l'Iran a, si vous voulez, des capacité militaire défensive nécessaire pour se défendre. Est-ce votre avis également?
Oui, en effet. C'est-à-dire, si on en voulait la preuve, ce serait justement dans les réactions américaines ou les réactions, disons, de leurs clients ou de l'entité sioniste et autres. C'est justement parce que l'Iran n'est pas faible. Ils savent que la force est non seulement soutenue par d'autres pays, mais qu'il a une force intrinsèque et surtout une capacité technologique qui lui permet de résister et même de tenir. Donc devant le blocus qui lui est fait, c'est cela qui inquiète justement tous ceux qui veulent continuer une position de force, périmée bien sûr en Orient. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher ces manœuvres d'intimidation verbale par exemple, et ces manœuvres disons qui n'aboutiront pas bien sûr, de mise en accusation aux Nations Unies et autres, tout ceci c'est quelque chose qui n'a pas de sens, je veux dire, qui sera arrêté même par le Conseil de sécurité qui sera arrêté, disons, par l'immense majorité des pays qui composent cette Société des Nations nouvelle. Je crois que pour le dire en un mot, disons, on pourrait reprendre cette formule de Gaulle d'autrefois, que la seule politique qui vaille, c'est la politique qui tient compte des réalités. Or, la politique contre l'Iran ne tient pas compte de la réalité de l'Iran, de la réalité des alliances de l'Iran, et disons qu'il ne tient pas compte de la nécessité d'un équilibre qui est cherché, justement, en Orient. La résistance, l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est justement l'effort de maintenir un équilibre, de maintenir, disons, une réalité contre des gens qui voudraient écraser tous les régimes et qui voudraient, disons, établir un chaos permanent, comme les autres, comme certains parlaient de la révolution permanente. Eh bien, c'est ce que veulent certains milieux américains, les conservateurs, les néoconservateurs, etc. Je crois que tout ceci est résumé, cette politique néoconservatrice est résumée dans l'attitude diplomatique de l'Angleterre, également certains milieux en France, mais même en France et en Europe, comme vous l'avez bien dit avec M. Egorov, eh bien, le Conseil européen et les États européens, je pense à l'Allemagne en premier qui a toujours eu d'excellentes relations avec l'Iran, évidemment sont opposés à cette politique. Des milieux réels, je veux dire. C'est ça, les milieux, non pas les milieux politiques forcément, mais les milieux réels, ceux qui font l'industrie, ceux qui font l'activité économique, sont opposés justement à cette sorte de guerre contre l'Iran, de guerre froide, si vous voulez. Ceci est considéré comme non seulement dépassé, mais dangereux même pour la santé du monde.
Et dangereux même pour les intérêts européens, Monsieur d'Ortiguier, très rapidement.
Et bien sûr, justement, c'est dangereux pour les intérêts européens. C'est pour ça qu'il faut, faut avoir confiance, justement, dans ces réalités économiques, car elles sont ce que, justement, De Gaulle appelait des réalités qui font la seule politique valable.
Mmh. Un dernier mot pour conclure notre émission, Monsieur Egorov, s'il vous plaît.
Moi, je pense que ce qu'il faut dire, et encore une fois, je rejoins entièrement ce qu'a dit Monsieur d'Ortiguier, je pense que l'Iran n'est pas le genre de pays qui se laisse intimider par de quelconque chantage, fausse attaque, provocation en tout genre. Je pense que l'Iran continuera efficacement à défendre ses intérêts nationaux ainsi que les intérêts de ses alliés. Je pense que l'Iran continuera toujours aussi efficacement à bâtir et à renforcer son alliance avec ses principaux alliés internationaux comme la Chine et la Russie et plus généralement tous les partisans de l'ordre multipolaire mondial qui est devenu une réalité. Et je pense qu'au final, tous ceux qui aujourd'hui continuent d'essayer d'attaquer l'Iran et d'essayer de le déstabiliser, je pense que tout ce chaos se retournera contre
Merci
eux,
beaucoup.
Avec toutes les conséquences qui en découlent.
Merci infiniment, Monsieur Mikhail Egorov, analyste politique spécialisé des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission, je crois, depuis Rabat, si je ne me trompe pas. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission. Et mes vifs remerciements vont également à Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.